Ravel et Marceau.
Denis Gravel qui est en plein bootcamp pour la Saint-Valentin, donc il se repose à la maison. Je ne sais pas s'il va être là demain, je ne sais pas s'il va être là jeudi, mais sachez-le, le 14 février au soir, il va être là avec son incroyable conjoint. C'est Jeff Fortin qui est là. Salut, mon ami.
Salut.
C'est Pascal Cévé qui est là. Salut, Pascal.
Pour mon malheur, j'y suis.
Ouais. Moins 14 degrés sur Québec. Refroidissement éolien. Température ressentie de moins 18. Comment ça se passe sur Québec? Je sais qu'à certains endroits, il neige ou on nous dit faible neige. Là,
mais seulement une belle neige. C'est comme des pots de lièvre qui tombent
ouais,
du ciel.
Mais ça va se gâter cet après-midi. Ah. De ce que j'ai lu sur des sites de météo, c'est que cet après-midi, si vous êtes dans la région de Québec, au-dessus de Québec, mettons, là, et peut-être à côté, et Charlevoix, tiens, je l'inclus comme ça, il va y avoir des grosses bourrasques de neige avec des chutes de neige au travers de ça. Ça va être compliqué sur les routes.
Tempête pour jeudi, officiellement.
Et
là,
ce soir, oui, ben c'est ça. Là, on a la prémisse. Là. Okay. Ce soir, ça se dirigerait vers la Beauce. Ce soir, c'est en Beauce que ça va se passer. Puis, il n'y a pas beaucoup de quantité de neige qui est annoncée. 2 et 4 cm, c'est très peu. Mais dans le retour, tantôt, ça va brasser. Pour ce qui est de demain, mercredi, c'est le retour au calme, ensoleillé avec un maximum de moins 13 degrés. Pendant la nuit, on t'en parle d'une température ressentie de moins 32. Si vous êtes au vent, on salue les gens qui sont à l'extérieur la nuit. Ça ne doit pas être évident. Jeudi, là, ça serait la tempête de neige avec un maximum de moins 9 degrés. En soirée, même chose, minimum de moins 14. Et vendredi, retour au calme, alternance de soleil et nuages avec un maximum de moins 10.
Sais-tu d'où ça vient aujourd'hui, Yannick? Cette semi-tempête-là, pas tempête.
Ce serait du Texas, de
Texas, bébé. Ils nous ont envoyé ça.
C'est fou à quel point ça voyage.
L'enfer.
Puis, des fois, on se plaint avec les météorologistes. Là. On dit, ben voyons, ils ont dit qu'il n'allait pas faire beau. Finalement, c'est plein soleil. Imagine-toi, ils sont obligés, des fois, de regarder ce qui se passe puis ce qui s'en vient du sud-américain.
c'est ça.
Puis là, tu dis, hey, ça va aller où? À un moment donné, là, les vents vont tasser ça un peu puis on va le recevoir carré d'en face. Les satellites aident, là, mais n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un peu d'interprétation, ce qui fait qu'il se trompe une fois de temps en temps. Hey, juste avant la pause, Jeff Fortin, on a parlé des écoles bleues de la Ville de Québec qui ont rejeté l'offre finale de la Ville à 90 %. Là, on s'en va en grève. Ça va être à compter du 20 février. Mm-hmm. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va devoir, pour les prochains jours, négocier les modalités de services essentiels qui vont être mises en place durant ce débrayage. Il me semble que c'est pas un super de bon moment pour faire la grève, là, de ce que je comprends.
Non, vraiment pas. Puis c'est une grève, c'est spécial. Je veux parler à Marc Ranger, notre spécialiste syndical, là, qui est souvent à Rage Against le matin. C'est une grève générale et limitée, mais de nuit et de fin de semaine. Mmh. Fait que ça veut dire que les employés de jour vont continuer à travailler comme si de rien n'était, de ce que je comprends.
Mais ça, c'est-tu justement pour se faire apprécier dans la négociation? Parce que tout le monde, tu sais, dit tout le temps... Vous faites la grève d'une mauvaise manière. Finalement, vous mettez les autres travailleurs, les autres citoyens derrière vous et non avec vous.
En plein ça. Oui, il y a certainement cette stratégie-là derrière ça, mais il y a la stratégie de faire mal aussi parce que le déneigement, il se fait 15, il se fait à nuit. Puis on est en plein hiver. Fait qu'on fait une grève générale illimitée la nuit. Et là, c'est la grosse question. Est-ce que le déneigement est considéré comme un service essentiel? Tu me poses la question, oui, parce qu'il faut que les gens circulent pour aller au travail.
Ben, la neige va être certainement tassée. Est-ce c'est qu'elle clair. Va être ramassée? Ouais. Ça, c'est une autre histoire.
En même temps, il y a 45 % du déneigement de la Ville de Québec qui se fait par des entreprises privées, 55 % par nos cols bleus. Donc, il y a des endroits, par exemple, les côtes surtout qui sont priorité zéro, sont faits par des entrepreneurs privés. Donc, ça, on n'a pas à s'inquiéter. Mais c'est la grande question sur le service essentiel.
Puis, de ce que je comprends, c'est qu'on veut des conditions de travail qui sont l'équivalent des autres plus grandes villes.
Oui, exactement. T'sais, on parle quand même si le maire Marchand disait, hey, c'est une bonne offre, puis c'était compétitif, et c'était compétitif par rapport à nos autres corps de métier, notamment les cols blancs, n'en reste pas moins qu'on parle d'un écart salarial de 5 $ de l'heure avec ceux de Lévis. C'est sûr que Québec, au niveau des cols bleus, on a rejeté cette entente-là à 90.
C'est sûr que la ville qui va donner tout le temps plus à ses employés va tout le temps servir.
C'est ça qui est tannant, ben oui.
Pour les négociations syndicales avec les autres villes. Est-ce que c'est plus difficile de travailler à Lévis? Je pense pas. Là.
Non, exactement.
Ça doit être à peu près la même job.
Non, c'est ça qui est difficile. T'sais, moi, je l'ai vécu dans les sociétés de transport quand j'ai travaillé au RTC, quand les chauffeurs, justement, faisaient des moyens de pression ou allaient en négociation. Ils se comparaient, justement, avec Laval, en disant une société de transport similaire. Puis à Laval, les chauffeurs, ben, ils gagnent 7 000 $ de plus que nous autres. autres, là, je te nomme un chiffre en l'air, là, je m'en souviens plus par cœur. Donc, nous autres, c'est ça qu'on veut. T'sais. Puis là, c'est tannant parce que tu dis, pourquoi à Laval, ils ont donné ces salaires-là, eux autres? Pourquoi ils nous ont fait ça? T'sais? Ça vaut pas ça, mais tu es comme pris toujours avec ce comparable-là.
Ouais. Autre sujet municipal, le maire de la Ville de Québec hier, qui était tout sourire, qui nous parlait de la compétitivité de la Ville de Québec qui s'améliore. Les commerçants sont heureux. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Puis en lisant un peu, je me rends compte qu'il y a une étude qui a été rendue publique hier de la firme KPMG. On dit que c'est une analyse indépendante, puis ça comprend les 5 plus grandes villes du Québec et 10 autres villes canadiennes qui ont été choisies pour leur répartition géographique, leur taille puis leur représentativité dans la diversité des entreprises en milieu urbain. Qui a payé pour cette étude-là?
Ben, c'est la Ville de Québec, évidemment. Parce que la Ville de Québec paye pour des études indépendantes l'étude indépendante dise ce que la Ville de Québec aurait dit, mais pour que les gens le croient.
T'as c'est vu ça la même chose que moi, hein?
Ben, c'est exactement ça qui arrive. Puis, tu sais, il y a deux choses là-dessus. Tu sais, on peut pas... on peut pas contredire les chiffres. C'est vrai que dans les 4 dernières années, en termes d'augmentation de taxes commerciales, la Ville de Québec s'est bien classée par rapport à d'autres grandes villes au Canada et au Québec. La problématique, c'est que nos commerçants étaient déjà égorgés avant ces 4 ans-là. Donc, ce que la Ville de Québec a fait comme effort, puis là, tu comprends, je le mets en parenthèse, permet pas à nos commerçants de survivre. Saint-Roch se vide, près de 18 % de taux d'inoccupation, rue Saint-Jean, pareil. Donc, peu importe les efforts qui ont été faits, c'est pas suffisant.
Mais ça a-tu été abordé avec le maire hier?
Ça a été abordé avec le maire hier.
Le maire disait, les oppositions n'auront pas rien à dire. Tout est positif. Mais quand on parle aux commerçants, leur chiffre d'affaires a diminué en raison des décisions de la ville. Des fois, c'est de faire passer des pistes cyclables puis d'enlever des stationnements. Le maire parle pas de ça.
Non, puis d'autres fois aussi, c'est de mettre des places de stationnement payantes aux endroits où il y a des commerces. Puis justement, les commerçants en souffrent. Bien, la ville compte pas ça dans sa charge fiscale. T'sais, dans l'étude qui est faite, on va compter les taxes, on va compter les coûts de loyer, tout ça, mais compte pas ces charges-là de tarification autre pour le consommateur, autrement dit. Fait que, tu sais, c'est là, puis je rejoins Claude Villeneuve quand Claude Villeneuve dit « Ce qui me tanne d'une étude comme ça, c'est qu'après ça, la ville s'en sert pour fermer la boîte des oppositions puis des commerçants en disant « Ben non, regardez comment qu'on est bon, mais dans les faits, c'est pas vrai que Québec gère bien son économie. Saint-Roch se vide. La rue Saint-Jean, le taux d'inoccupation est le plus élevé dans les 7-8 dernières années. Les commerçants ont énormément de difficultés à Québec aujourd'hui. Puis là, dans le but d'une future campagne électorale, on sort ces chiffres-là en disant « Regardez le travail que j'ai fait. »
T'as tout compris. Lui, ça y prend un bilan. Là.
C'est ça.
Ça va y prendre un bilan à présenter. Puis il n'y a rien vraiment de positif pour la Ville de Québec depuis le temps qu'il est là. T'sais. Le bilan de Régis Labeaume, on peut penser au centre Vidéotron. Il y a des gens qui le voulaient, il y a des gens qui le voulaient pas. Mais après ça, Régis Labeaume peut dire moi, le centre Vidéotron, je peux dire que j'ai contribué à ça.
Exactement.
Mais c'est son leg.
Bilan de Jean-Paul Lallier, c'est Saint-Roch.
Le bilan de Jean-Paul Lallier, c'est Saint-Roch. À un moment donné, il voulait faire des marches. Il était un peu, peu toasté là, vers la fin. Là. Mais on les a pas faites. Mais t'as raison.
Le
parc Saint-Roch, pour nous autres qui venons de là, c'était de toute beauté. Ça me surprenait à chaque fois de ne pas voir de gens qui campaient là avec des tentes roulottes.
Espace commercial, Saint-Roch était à 70% de taux d'inoccupation quand Jean-Paul Lallier a commencé à s'en occuper. Fait que, c'était le désert. Là. Tu sais, c'était quoi? Là? C'était une piquerie à ciel ouvert à Saint-Roch.
Exact. Fait que ça, c'était son leg, mais le maire marchand n'en a pas.
Non.
Il va essayer juste juste faire une parenthèse, il n'y avait pas juste un leg de structure. Là. C'est quand même un gars qui a ramené Québec sa map énormément.
Avec les fêtes du 400e en 2000.
Les fêtes du 400e, pas juste ça, la façon dont on se tenait à la ville. Il a ravivé aussi la flamme chez certains jeunes de s'établir, de faire sa famille en ville. Il y avait quelque chose. Il y a eu, pour moi, la fin qui a tout scrappé, une partie là, de ses legs puis de sa position. Là. Mais c'est quand même un gars qui tenait à ce que Québec soit vu avec le même respect que Montréal.
Mais je connais pas grand monde qui ont laissé leur maison pour aller s'établir en ville. Souvent, c'est des gens qui terminaient leur bac, exemple, à l'Université Laval, qui s'achetaient un condo en ville, puis là, ils choisissaient d'avoir leurs enfants là.
Ouais. Moi, c'était
mais
beaucoup
c'est rare
de jeunes.
Que le chemin contraire a été fait.
Moi, beaucoup de jeunes sont allés en ville dans cette portion.
Sont-ils encore là?
Oui.
Okay.
C'est juste qu'ils ont vendu, mettons, un condo pour acheter des duplex ou des trucs comme ça,
okay.
avant la grosse vague immobilière.
Mais ils sont en haute ville.
Oui, j'en ai une dizaine d'amis, là. Puis ils habitent le même secteur. Il y en a beaucoup qui tripaient Montcalm, qui avaient un appart, qui ont acheté. Mais c'est juste que là, c'est plus vraiment achetable. Ouais.
Parce
là,
que nous
pour
autres, dans notre temps, les choix que nos parents faisaient, c'est parce que c'est de la misère humaine.
Ah, ben oui, là, c'était des loyers.
Centre-ville de Québec, je pense. C'est drôle parce que je me parlais de ça la semaine passée avec Angémé 30 sous. Tu sais, moi, Angémé 30 sous a toujours fait partie de mon univers. Là. Je descendais, on restait au deuxième étage, je pense que c'est sur du Roi ou de la Reine, je ne me rappelle pas. Puis il y avait comme la marche qui a donné sur le trottoir. C'était une marche de béton. Puis Angémé s'assoyait là. Puis, mais je ne sais pas pourquoi elle s'assoyait là. Peut-être que la pierre était plus chaude. Là. Mais elle s'assoyait là. Puis à chaque matin, j'étais obligé de vérifier si elle n'était pas là. Fait que je donnais comme un petit coup. Ça apporte pour voir s'il y avait quelqu'un. Ouais, puis après ça, s'il n'y avait pas de résistance, j'ouvrais la porte.
Là, tu ouvrais la porte.
Mais je veux dire, il n'y a pas personne qui voulait aller amener leur famille là pour voir grandir les enfants.
Ça, ça a été de 2000, peut-être 10 à 2022 où que Saint-Sauveur, beaucoup de gens que je connais qui ont migré là, qui ont acheté.
Ouais.
Puis après ça.
Ça s'est amélioré. Ouais.
Attends, non. Là, à partir de 2022. Ça a énormément diminué.
C'est un nausée, oui.
Il y a des gens qui ont adoré transférer à Saint-Sauveur, qui pensaient que ça allait se revitaliser et tout. Mais de 2022 à maintenant, c'est rendu un regret quand c'était la plus belle chose de leur vie.
Dépendant 24 heures, on avait 2 litres de coke gratis.
Oui.
Ça?
Comment?
Comment ça?
Je sais pas, il laissait ça dehors.
Ah! Il donnait.
Non, on avait plein. On avait plein de choses gratuites comme ça.
On faisait des bombes, mais Angémé 30 sous a toujours fait partie du paysage. Il y a un monsieur aussi qui se tenait constamment en face de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Je sais pas si lui a marqué ton enfance, Jeff. Puis s'il y a des auditeurs 418-971-101 qui l'ont déjà vu passer, c'est un monsieur qui faisait une allergie particulière qui faisait en sorte que son nez grossissait plus gros que sa tête, Pascal. Une fois de temps en temps, il passait sous le bistouri puis il revenait avec un nez à peu près normal.
Il se faisait constamment arranger le nez?
Oui.
Ben, je veux dire, le
c'était
nez,
sûrement couvert par la RAMQ, là, parce que, pour y aller aussi souvent.
Mais nous autres, c'était comme, voyons, j'avais l'impression que c'était l'homme éléphant, c'était l'homme trompe.
Oui, t'as raison. T'as entièrement raison, ça me dit quelque chose.
Il était tout le temps aux abords de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Ah non, c'était un quartier assez particulier à l'époque.
Quartier très particulier. Moi, j'avais un de mes amis qui habitait sur la rue du Pont, on partait de chez eux pour aller au cinéma.
Ouais.
Mais quand tu passais sur la rue du Pont, là, tu traversais dans le mail à partir de la rue du Pont, là. Il t'avait de l'itinérant puis du toxicomane au pied carré.
Il y avait un tunnel, je ne sais pas s'il existe encore ou s'ils l'ont enterré, mais c'était un tunnel qui passait de la bibliothèque Gabriel-Leroy au Mains-Saint-Roch.
C'est bien trop vrai, tu as raison, tu me rappelles des souvenirs.
Il y avait un genre de mini centre d'achat, il y avait des dépanneurs, des boutiques.
Mais ça ne devait pas être glorieux.
Comme une station de métro dans le fond à Montréal, si je peux mettre une image pour les gens.
C'était pas glorieux, mais nous autres, c'était notre normalité. On n'avait rien connu d'autres.
Est-ce que vous vous sentiez en danger quand vous y passez là-bas?
Non, jamais.
Non, on était inconscients. Mais tu sais, aujourd'hui, j'avais cette discussion-là il y a de ça quelques années. Mes gars doivent parcourir un sentier pour aller prendre l'autobus. On le voyait de notre maison.
Oui.
Puis leur mère était inquiète chaque matin.
Non, mais c'est clair.
Puis nous autres, on allait à la petite école au centre-ville de Québec. On traversait pas une rue, là. On en traversait à peu près 25.
Oh, oui, puis tu traversais Saint-Vallier, puis des rues passantes de même, puis il n'y en avait pas de problème.
Pis dans ce temps-là, on se baudrait pas avec la lumière rouge, la lumière verte.
Non.
Il n'y avait pas de char, on courait.
À 7 ans, je prenais mon vélo, puis je partais de chez nous, puis je m'en allais au parc Victoria pour la journée, quasiment avec mon lunch.
Pas de casque.
Pas de casque, pas rien.
Le danger.
Maman disait juste, on revient pour dîner, pour souper. Tu revenais, puis les parents, il n'y en avait pas de problème.
Vous faites votre âge dans mon temps.
Non, mais c'est vrai.
Mais t'as raison, j'ai 30. T'as quel âge, toi?
J'ai 45.
Bien, c'est sûr, je vivais à l'Ange Gardien. C'était pas en ville. Nous autres, quand les parents étaient écœurés la fin de semaine, là, puis qu'il y avait du fun sur la terrasse l'été avec 2-3 coronas, là, ils nous donnaient genre 5$ pour la gang des enfants, soit 5 à 6 enfants. Puis on allait jusqu'au dépanneur qui était à 2 km facile, 3 km de chez nous. Moi, je me souviens que ça a commencé, j'étais en poussette. Ma soeur a bien beau avoir 8 ans de plus que moi. Pas gardienne, pareil. Puis il n'y avait pas de problème, c'était pas vu étrange. Maintenant, je revois, mettons, à l'Ange Gardien sur le trottoir, une gang de jeunes de cet âge-là qui marchent 3 km pour aller s'acheter des bonbons avec 5$. Je panique, c'est pas mes enfants.
Non, c'est clair. Puis de toute façon...
Si t'avais été une petite mère à cette époque-là, t'aurais perdu connaissance.
Mais je veux dire, autre temps, autre mœurs.
Nous autres,
probablement
nous autres,
que j'aurais été pareil.
On n'avait pas de montre. On n'avait pas de cellulaire. Comment on faisait pour savoir quand rentrer?
Le coucher de soleil. Ça criait.
Ça, c'était les Incas.
Yannick!
C'était les lampadaires.
Yannick! Ah, oui.
Quand les lampadaires allumaient, c'était le temps de rentrer. Ça, c'était en semaine.
C'est ça que les parents disaient? C'est normal, cute.
Fait que ça, c'était en semaine. Quand les lampadaires allumaient, c'était le temps de rentrer. C'était un peu plus plate l'hiver parce que là, tu rentrais à la maison de bonheur.
Oui.
Mais quand les lampadaires allumaient, là, c'était le temps de rentrer.
Oh, ben là, c'est cute.
Mais mettez tout ça pour dire on revient, on lègue.
Puis on faisait tout le temps à croire qu'on n'avait pas vu une lampadaire allumée.
On revient, on lègue du maire marchand. Le maire marchand travaillait pour que son lègue soit le tramway. C'est là-dessus qu'il a travaillé pendant 4 ans.
Ouais. Puis ça n'a pas fonctionné. Il va retourner en élection sans lègue.
Ah, clairement qu'il retourne en élection sans lègue.
Il va nous parler de ça, de l'étude de KPMG que lui-même a payé avec l'argent des contribuables. Puis il va nous parler des patinoires.
Patinoires réfrigérées.
Réfrigérées, qui a payé avec le fameux fond vert.
C'est ça, c'est pas un lègue.
L'argent qu'il nous a volé, qu'il a mis de côté. Ouais. Puis après ça, il a décidé, pour avoir un lègue, de mettre cet argent-là sur les patinoires réfrigérées. Ça va être assez gênant.
Ben, il voit beaucoup de l'accès sur la santé aussi, mais tu sais, il va avoir de la difficulté à le mettre dans son bilan parce que ça a été très controversé, mais le fameux centre de curling, les Jeux du Canada, tu sais, il va y aller avec ces grandes thématiques-là. C'est pour ceux qui souhaitent énormément des annonces de championnat mondial de hockey féminin et junior, tu sais, pour dire, hey, Québec, on est une ville d'événements, il y a un roulement, les gens sont intéressés à Québec, donc c'est ce qu'ils souhaitent ardemment.
Ouais. Pascal, toi, tu viens de l'Ange Gardien?
Oui.
T'as-tu connu le Bosch?
Le Bosch?
Le Bosch de l'Ange Gardien, il est très connu par les individus de la Sûreté du Québec parce qu'ils l'ont poursuivi assez souvent, là, que ce soit en char ou en moto.
C'est un
gars? Ouais, c'est un gars qui est tatoué d'en face. Il est super sympathique.
Mais là, il habitait là de quand?
J'ai rencontré 2-3 fois. C'est sûr que tu l'as connu quand il était jeune, tu l'as vu apparaître. Là. Il était tatoué toute la face. Et à un moment donné, il a volé un bike de course. Il n'avait jamais conduit...
Une moto,
de,
tu veux dire,
moto? Okay. C'est ça. Il n'avait jamais conduit une moto de sa vie.
Oups.
Puis les gars de la Sûreté du Québec, quand ils l'ont vu passer, ils sont partis à rire en disant « Mais voyons, toi, qui viens de prendre une
qu'est-ce
moto. »
Qu'est-ce qu'il fait là?
Ils l'ont poursuivi. Puis après ça, quand ils l'ont rattrapé, il a mis sa moto sur le bord des chutes Montmorency sur l'autoroute. Ouais. Là. Il a débarqué, puis il a dit aux policiers « On a fait une belle run, les gars! » Ah, Bosch, il vit dans le bois, pas loin de chez vous, là, où t'es né. Là.
J'adore ça. Ça veut
dire qu'il habite en montant, genre au lac La Retenue?
Oui, oui. À un moment donné, j'étais dans une ligne ouverte le soir, puis là, il m'appelle, puis il me dit « Est-ce que t'as dit de moi? C'est faux! »
OK.
Là, t'as peu, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ben, il dit « Il y a un article sur moi dans le Journal de Québec, puis ce que t'as dit de moi, c'est faux! » OK, c'est bon. Peux-tu me donner plus de détails?
Ben, c'est quoi d'abord?
Pour finalement comprendre que lui, il faisait une job d'élagueur.
OK.
Mais bénévole, mais rémunéré.
OK.
Rémunéré de genre, je vole tout ce qui est métaux autour.
Puis à un moment donné, ben, les policiers sont arrivés sur place parce qu'ils trouvaient qu'il faisait un job de marde, de lagueur.
OK, un vrai lagueur. Je pensais que tu parlais qu'il volait du cuivre, mettons, alors, là, ses fils. Mais là, tu es dans les arbres. Dans les arbres.
Fait que, il y avait une chaîne ça.
Puis ils se promenaient.
Les policiers sont arrivés sur place. Ça, c'est la police de Québec à l'époque. Les policiers sont arrivés sur place. Puis là, il a dit tu peux pas continuer à faire de l'élagage bénévolement tout en étant rémunéré, puis laisser le stock-là. Et lui, il avait eu la bonne idée d'ouvrir sa chansa, puis de crinquer sa chansa, puis de menacer les policiers.
Mais non. Voyons donc.
Et les policiers l'ont taisé.
Là, je vais demander à ma famille. Je suis en train de texter mon père.
Voyons, tout le monde connaît le Bosch.
Le Bosch.
Il t'en avait du monde spécial, là.
Ben oui.
C'est complètement fou.
Il y a quel âge, gars, là, maintenant?
J'avais. Le Bosch, il doit avoir à peu près 70.
Peut-être pour ça, je
65-70, mais il reste dans le bois, dans la forêt.
Mais rappelle-toi, moi, je suis parti à 16 ans pour les études, là.
Ouais, c'est ça.
Donc, peut-être que le Bosch sévissait que ça tienne ça. Non,
mais quand il te croise, tu vas voir que. Quand tu croises son regard, tu vas voir qu'il tombe en amour rapidement.
Notre belle madame.
Quelqu'un dit, on savait pas s'il était dangereux ou gentil.
Ah, il est pas dangereux, à part si t'es policier. Là.
Non, c'est ça.
Sa roulotte a brûlé il y a 2 ans.
Oh, oui.
On le croise assez souvent encore. Mais voyons donc.
Alors, c'était un weirdo, mais il est super gentil.
Mais je commence à être inquiète parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'Ange Gardien. Il faut croire qu'ils nous écoutent.
Ouais.
Est-ce que ça rentre? Je vais faire attention à ce que je dis. Souvent, je dis trop l'Ange Gardien.
Bref, il y en avait des personnages à Québec. Mais y a-t-il des gens qui nous ont écrit pour le monsieur qui était allergique? Qui avait, qu'on appelait l'homme trompe, là, mais on avait quoi, 4, 5, 6 ans?
Oh,
il y avait la dame dans la bus aussi, je me souviens pas c'est quoi son nom, mais elle prenait toujours l'autobus, là, puis bon, clairement, elle avait des troubles de santé mentale. Là. Ça doit dire quelqu'un.
Ouais, moi aussi, j'ai oublié son nom parce que j'ai traité son dossier au RTC à l'époque au service à la clientèle.
Mais c'était-tu engémé?
C'était-tu
engémé 30 sous? Parce qu'engémé 30 sous, son histoire est triste, épouvantable. J'en ai su un peu plus sur engémé, qui était un personnage de notre enfance, quand Gilles Kegle fait paraître par année là, les corps non réclamés. Donc, tout ça. Puis il a parlé de l'histoire d'engémé 30 sous. Puis engémé 30 sous est né dans une famille où le père avait quitté très rapidement, puis la mère se ramassait avec une dizaine d'enfants. Puis engémé était la plus vieille de la fratrie, ce qui fait en sorte que sa mère a dit « Tu vas devoir remplacer ton père parce que faut que je m'occupe de tes frères et sœurs. » Puis elle, elle a découvert, je ne sais comment, qu'elle pouvait rencontrer des marins contre rémunération. Le ange aimé 30 sous vient de là. Donc, elle est devenue hyper populaire auprès des marins qui débarquaient à Québec, puis qui profitaient malheureusement de cette pauvre fille-là qui devait ramasser de l'argent pour sa famille. Puis elle a vieilli. Mais elle a vieilli, ce qui est hallucinant, là, c'est qu'elle a vieilli sans méchanceté.
Ouais.
Moi, j'aurais été probablement extrêmement fâché de la misère humaine dans laquelle j'aurais été mis. Puis j'aurais probablement fini ma vie en prison. Bien, ange aimé, là, toujours la douceur même. Toujours extrêmement polie. Elle allait manger dans des petits commerces, là, des fois prendre un café à une pièce dans le temps. Elle pouvait passer 2-3 heures là pour se réchauffer. Puis elle repartait, toujours gentille.
Elle payait ses affaires.
Elle n'a jamais été scrappée. Par toute la violence.
Ça, c'est fascinant. Ça veut dire son fond est exceptionnel. Puis, tu sais, c'est là que tu te rends compte à quel point l'enfant joue. Ça joue tellement sur qui tu vas devenir, sur la chance que tu vas avoir, sur qui tu vas être. Puis, tu sais, elle, clairement, je veux dire, sa mère, probablement qu'elle se fermait les yeux, là. Elle se fermait sûrement les yeux de sa mère là-dessus, sur ce qu'elle faisait sa fille pour la famille, parce qu'elle savait qu'elle devait alimenter le reste de la fratrie. Ouais,
dans le but de subvenir aux besoins de la famille, en effet.
Adrienne, c'est vraiment le nom que je cherchais, la dame de l'autobus. Beaucoup de gens qui se rappellent d'elle dans la 807. De mémoire, elle est décédée.
Ah oui?
Oui.
Bon. Paix à Adrienne. Mais c'est ça. Bref, il y a beaucoup de personnages à Québec. Autre sujet que je voulais aborder avec vous autres, il y a plein d'histoires assez particulières aujourd'hui dans l'actualité. Trump, je pense qu'on en a assez parlé.
Oui.
C'était tout tanné d'entendre parler.
Puis là, de toute façon, on se lance en négociation, puis c'est jusqu'au 4 mars pour l'acier et l'aluminium, 25%. C'est ça qu'on a à retenir. Là.
Oui, c'est carrément ça. Est-ce qu'il va faire un volte-face? Je ne sais pas. Je vous pose la question. C'est une question d'ordre moral.
Oui.
Okay. Tu as un ami qui, dans les années 90, a violé une femme.
Ouais.
Il a été déclaré coupable. Puis par la suite, il a obtenu une absolution inconditionnelle. Quelques décennies plus tard, un genre de 20 ans, il se voit accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes.
Oui.
Ce gars-là vient te voir et dit « Jeff, j'ai besoin d'argent pour assurer ma défense.
Hey. »
Sachant tout ça, tu y passes-tu de l'argent? Mais genre 3 millions, je te dis un chiffre comme ça.
Ouais, non, je vais dire crève puis organise-toi avec tes flûtes.
Ouais.
Tu dirais ça de même?
Parce que ça va... Ça
moi, il n'y a aucune... Non, mais il n'y a aucune pitié pour les agressions sexuelles.
Ouais. Ça va pas du tout avec tes valeurs?
Pas du tout avec mes valeurs. Fait que c'est... Non, c'est... Écoute, ose même pas me le demander.
Merci de me rassurer. Toi?
Jamais de la vie!
OK.
Puis ce serait le culot du siècle de demander de l'argent pour sa défense quand t'es un trou.
J'ai pogné un article de la presse aujourd'hui.
Ouais, je sais, j'ai vu le même.
On parle de Laurent Ruquier. Au Québec, on le connaît très peu, Laurent Ruquier, mais si on vous montre son visage, puis on vous fait entendre un extrait de sa voix, vous allez le replacer. C'est un grand présentateur français. Oui, j'écoute beaucoup d'émissions en France.
Oui, mais moi, ça ne disait rien.
J'aime bien ça, écouter des débats et tout ça.
Sur France 2, je pense. Hein.
Oui, puis c'est un animateur de radio aussi.
Oui, la radio, je ne l'ai jamais entendue, mais je l'avais entendue à la télé. Il faisait un gros show dans le temps.
Il a 61 ans, juste pour placer le contexte.
Ouais. Laurent Ruquier, c'est le chum de Gilbert Rozon.
Mm-hmm.
Puis Gilbert Rozon serait sans le sou parce qu'il est en attente, suite à des poursuites, de recevoir l'argent qu'on lui devrait pour la vente de Juste pour rire.
Mais quand tu sais que tu vas être poursuivi au civil des agressions sexuelles, des fois, tu deviens sans le sou soudainement, mais t'en as de cash ailleurs.
C'est ce que tu penses?
Ben là.
Moi aussi, c'est ce que je pense, mais il y aura, à un moment donné à prouver tout ça. N'en demeure pas moins que Laurent Ruquier dit oui, effectivement, j'ai passé 3 millions de dollars à Gilbert Rozon. Il n'a jamais violé personne.
Ouais. Il a été reconnu coupable.
Il n'a pas encore été déclaré coupable. C'est ce que Laurent Ruquier dit. Alors que.
Il a raison, là, dans ce qu'il dit.
Non, il a tort.
Ben, il a déjà été reconnu coupable.
Parce que dans les années 90, il aurait violé. En tout cas, le juge a dit qu'il était coupable. Il a violé une femme.
Mais pas dans le cas actuel dans lequel il demande de l'argent. C'est correct. On est à la même place.
Exact.
OK.
Mais sachant qu'il l'a fait dans les années 90, tu y passes-tu 3 millions plus tard? 418-971-1021.
Même pas 10 piastres. Ouais.
Qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais passer cet argent-là à un agresseur sexuel.
Qui est convaincu ou qui est impliqué. Ou qui est, là, on sort du dossier, mais mettons qu'on y va avec des noms inconnus, là, des individus X. Là. qui est convaincu, qui a peut-être quelque chose à se reprocher, sinon son nom peut-tu sortir? Est-ce que moi, mon cerveau est allé partout. Là.
Ouais.
Parce que même ton frère, tu le ferais-tu pour ton frère, Yannick?
Non, pas du tout. S'il a fait ça, puis je le sais qu'il a fait ça dans les années 90,
mais
puis il a été déclaré coupable.
Ah, c'est une erreur de jeunesse des années 90. Là,
non, j'ai pas de pardon.
Moi non plus, zéro pardon.
Si tu agresses des enfants, tu agresses des femmes, je n'ai aucun pardon. Je peux avoir du pardon pour des gens qui ont volé parce qu'ils avaient faim. Tu as le droit à une deuxième chance dans la vie. T'sais. Mais ça, je n'ai aucun pardon. Puis le gars, il est connu, Laurent Ruquier. Là.
Fait que... Il colle son nom là-dessus. Je comprends pas.
Ouais.
Je te dis, ma tête allait partout.
Ouais, moi, j'ai pensé à ça. Puis ça m'a ramené au procès de Gisèle Pélicot. Comment la France, dans leur charte juridique, ne protège pas les femmes contre les agressions sexuelles? Hey, le mari l'a fait violer à répétition pendant 10 ans par des centaines d'hommes, puis il a tout de même bien eu juste 20 ans de prison, puis c'est le maximum dans le code criminel.
Ouais.
Fait qu'en France, il y a encore énormément de chemin à faire pour les droits et la protection de la femme.
Mais les gars, est-ce que vous vous posez la question du pourquoi le gars, il défend à ce point-là, puis il veut mettre autant d'argent pour la... Tu sais, t'as beau... Penser être convaincu que ton chum a pas fait ça, moi, j'aurais un soupçon pareil par rapport à mon ami, même si je voudrais pas, puis je voudrais continuer d'être sûr qu'il a pas fait ça, puis il essaierait de me convaincre à chaque jour, puis j'aurais un soupçon, fait que je serais pas à l'aise de passer de l'argent à ce point-là, puis d'endosser une cause, surtout il a été accusé. Pourquoi est-ce que cet homme-là souhaite mettre autant d'argent pour défendre son ami? Je veux dire, l'amitié a une limite à un moment donné.
Tu penses-tu que Roson a des secrets de Ruquier? Attends qu'on est pervers, on a l'esprit pervers.
Si on est pervers... On peut aller dans une idée perverse comme celle-là.
Ouais. Ben, on y va un peu là-dedans du côté des auditeurs où on dit je serais curieux de fouiller le passé de Roson, le passé que Roson connaît. T'sais. Est-ce qu'il y a quelque chose que Roson sait que lui, Luquier, ne veut pas qu'il sorte, puis là, il finance Roson?
Parce qu'il y a deux steps là-dedans. T'sais, passer de l'argent à un gars qui a déjà agressé sexuellement une femme et qui est accusé d'avoir violé plusieurs autres femmes.
Ouais.
Ça, c'est le premier step. Puis en plus, greffer ton nom à cette aide-là que t'apportes à ce gars-là.
Ben oui.
Sur deux continents.
Ouais. Puis tu sais, Denise Bombardier, là, je ne sais pas vous autres c'est quoi votre perception de Denise Bombardier, mais moi je trouve que ça a été une grande Québécoise dans son ensemble. Je trouve que vers la fin de sa vie, elle avait des papiers qu'elle écrivait des fois sur les gens qui étaient tatoués, qui étaient un peu particuliers, mais elle était de son âge. Mais quand j'ai vu ce qu'elle avait fait en France, c'est-à-dire de confronter directement un pédo, alors que tout le monde sur le plateau, il était il agressait des enfants.
cette femme-là
est exceptionnelle, mais ça m'en dit beaucoup sur les mœurs de la France.
Ben oui.
Les mœurs, oui. Ils ont tellement de travail. Yannick, vas-y en tant que touriste, là, puis vas-y avec une de tes amies, mettons, là, ou ta blonde, ou assieds-toi à une table, là, puis fais une expérience de vie. Là. Laisse-la aller se promener ou autre, là. C'est tellement fascinant encore comment est-ce que les Français ils ont une mentalité particulière. Puis je m'excuse pas de mon propos, mais il y a aussi eu beaucoup d'immigration avec des mœurs différentes qui, au lieu d'affaire avancer la vision masculine à propos de la femme, a peut-être fait stagner et reculer.
Ouais. Il y a un reportage...
Là, je le dis en connaissance de cause, dans le sens où j'ai voyagé et je l'ai vécu. Ouais. Je dis pas que c'est une globalité, une majorité de personnes, mais il y a ça pareil.
Il y a un reportage qui date de 2016, pour être précis. Je ne me ferais pas avoir deux fois, qui date de 2016, où il y a deux femmes qui se promenaient dans un certain secteur en France, où c'était des cafés où il y avait uniquement des hommes. Donc, les filles essayaient de s'immiscer dans ces cafés-là et se faisaient sortir de là.
Comme
parce que c'était des femmes. Oui, dans le temps qu'on avait à paix. Mais parce que c'était des femmes, ils se faisaient carrément sortir de là. Fait que la France accepte ça, qu'il y a des établissements à certains endroits. Je ne sais pas si c'est encore le cas en 2025.
Mais en
2016,
ça l'était.
Ah oui, ça l'était.
Non, c'est fou. Oui, puis moi, vraiment, je reviens sur le procès de Gisèle Pélicot. Ça m'a consterné de voir à quel point la femme était diminuée en France par rapport à la justice.
Juste en termes d'opinion.
C'est arrivé chez nous, Claude Jutras.
Oui.
Claude Jutras, il aimait un petit gars. Puis sa meilleure amie... qui était celle qui a mis en place le No Fault au Québec. Elle l'a défendu.
Oui.
Parce qu'elle disait Claude, c'était son ami.
Ça, tu peux être...
C'est Lise Payette, sacrément.
Oui, mais tu peux faire du délit volontaire.
Ben oui.
C'était décevant, mais côté psychologique, il y a quelque chose là-dedans. Là. Je vais faire de l'opinion. Il y a aussi beaucoup de femmes qui me déçoivent en France, par exemple. D'embarquer dans ces choses-là.
C'est bien que tu fasses l'opinion.
Non, mais je suis un peu cinglante là, envers les miennes, là, mais souvent, j'écoute la télévision là, française, européenne, puis tout ça. Puis ce qui me choque dans les débats, là, c'est à quel point tu es utilisé comme potiche, greluche, puis que tu aimes ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'aident pas non plus à cette cause-là. Mm-hmm. Puis là, je ne veux pas déplorer une belle femme qui est bien mise, qui aime ça séduire, qui aime ça. C'est correct, je fais vraiment une différence. Mais quand tu la joues conne, t'alimente des choses aussi.
Mais Lise Payette, qui, parce que là, on parlait de la France, on disait, il y a des gens qui étaient en train de valoriser un pédophile sur le plateau, puis t'as Denise Bombardier qui est arrivée, c'est coup de poing en face, coup de batte de baseball sur la tête, elle te le ramasse. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable, ça, mais ça m'a comme laissé un goût amer de la France. Puis ce que j'entends là de Laurent Ruquier, je me dis, OK, ben lui, il doit être assez intelligent pour regarder ce qui se passe sur Wikipédia, mettons. Puis il voit ce qui s'est passé avec cet individu-là. Gilbert Rozon, des années 90, qui a déjà agressé une fille. Puis il s'en va dire dans les médias, ouais, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais agressé personne. Alors que c'est faux, puis il a passé 3 millions. Fait que, bon, il y a des théories du complot actuellement par texto, là, comme quoi Gilbert Rozon aurait de l'information sur Ruquier. Mais je trouve ça décevant.
Très décevant.
De ces gens-là qui devraient être des modèles pour leurs téléspectateurs, leurs auditeurs, les gens qui les adulent.
Puis c'est pas juste décevant, c'est dangereux à un certain point.
Gilbert Rozon m'a demandé 3 millions. Ouais. Savez-vous quoi? J'ai vu ce qu'il avait fait dans les années 90. Qui mange la mort?
Ben, même si tu voles un char, je te donnerai pas de l'argent, Yannick, pour te défendre.
Mais tu sais, quand je te dis que c'est dangereux, c'est parce qu'il y a des gens...
C'était un Noël du campeur. Il y avait quelqu'un qui avait laissé son affaire de golf, la carte de golf, sur le bord du lac. Puis, tu sais, la marée haute, la marée basse, tout le monde connaît ça sur le bord d'un lac. Là. Fait que j'ai tenté de sauver le véhicule.
Ah, c'est même que tu t'es défendu.
Non, la police ne m'a pas pogné.
Ouais, c'est ça, tu sais, dans le cas de Ruquier, il y a des gens qui vont l'avoir en idole. Et là, le fait qu'il se positionne comme ça, ben ça lance un message dangereux que les femmes sont diminuées par rapport à l'homme.
Ouais. Ouais. Ah non, c'est,
que sexuellement, tu as le droit d'assouvir tes besoins quand tu veux avec la femme.
J'ai été flabbergasté de cette nouvelle-là qui passe peut-être un peu inaperçue là, sur le site de la presse parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse au Québec Laurent Ruquier. Mais pour les gens qui regardent des shows en Europe, tout le monde y a déjà vu à la face quelque part. Mm-hmm.
Le grand-père... moi, je l'avais pas vu par contre, je m'excuse, j'ai plaidé coupable. Le grand-père... c'est pas grave, rendu là. Le grand-père à ma femme qui vit en France a toujours aujourd'hui un club exclusif aux hommes. À Noël, ils ont le droit d'inviter leur femme, mais le reste de l'année, ce serait une exception d'y accepter une femme. Ça, c'est un texto qu'on vient de recevoir.
Donc, ça existe encore.
Ben, moi, je
suis sûr qu'il parle de l'épicerie. Moi.
Je vais te parler de ce que je sais. 2016, j'ai vu un reportage. Il est encore disponible sur les sur YouTube. Vous allez le trouver sans aucun problème. Midi 31. Hey, mon Jeff, je peux pas te laisser partir sans te parler du tournoi des Quatre Nations.
Oui.
Sidney Crosby, Sid the Kid, qui était sur la glace avec le signe du Canadien.
Oui.
Bon, ça faisait rêver.
Oh, oui.
Il pourrait-tu finir ses jours
Il va finir à Pittsburgh. Il va finir à Pittsburgh. Il a signé d'ailleurs un contrat, comme à l'habitude, à 8,7 millions par année parce qu'il y a le numéro 87 pour terminer là.
Ouais.
Il veut faire sa carrière avec la même formation. C'est beau à voir. Mais oui, tu pourrais rêver en tant que fan du Canadien.
Y a-t-il une clause de non-échange?
Certainement.
On a qui à donner contre Sidney Crosby qui est sur la fin de sa carrière, mais qui est un gars que tu prends dans ton équipe n'importe quand?
Ben là, t'as qui à donner? Tu pourrais dire, je donne Nick Suzuki, mais pas sûr que... Que à long terme, bon, remarque, t'as Crosby dans ton équipe pour 2 ans, ça rapporte. Tu le veux, Sid.
Ouais.
Même à l'âge qu'il y a là.
Je sais pas si t'as pogné l'entrevue avec Samuel Montembeau, là, qui se pratiquait avec eux autres. Il avait de l'air d'un enfant.
C'est un kid. C'est un pee-wee parmi les grands.
Il avait de l'air d'un enfant au banjo.
Ouais. Mais t'as raison. Tu venais de mettre Montembeau dans un magasin de jouets, puis tu lui disais, t'as le droit de toutes les acheter. C'était sa réaction. Mais c'est beau à voir. Puis, tu sais, Montembeau, là, faut pas oublier. Hein, il est passé par le ballottage. Le Canadien l'a ramassé. T'sais, il y a eu des années difficiles à ses débuts professionnels. Puis là, le fait de juste se retrouver avec le logo du Canada devant lui dans une pratique, puis de jouer avec les meilleurs au monde, hey, je comprends son excitation.
Jeff Fortin, ce fut un plaisir. On ne sait pas si Denis va être là demain.
J'y
parce qu'il est dans, il est dans son bootcamp pour la Saint-Valentin.
Ouais,
il se repose pour la grosse soirée de vendredi.
Pourquoi il a besoin d'entraînement demain.
Si il n'est pas là, t'es invité à venir avec nous autres demain.
C'est nous.
Toujours un plaisir. Merci tout le monde. On fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il est midi 33 sur Québec actuellement. Faible neige, mais ça devrait commencer à brasser vers les entours de 15, 16, 17 heures. Dans la grande région de Québec. Puis après ça, ben, ça va être repoussé un peu plus vers la Beauce, là, si on en croit les astrologues, les météorologues. Souvent, c'est la même affaire, ils se trompent. Hein? Donc, ça devrait être un peu plus vers la Beauce ce soir et cette nuit. Mais pour ce qui est de l'accumulation de neige, entre 2 et 4 cm. On revient.
Gravel dans le